RMC Intégral Tour, Pierre Dorian.
L'Intégral Tour, Wiggins est vraiment le plus fort, mais fait-il un beau vainqueur du Tour de France? On veut votre avis au 32-16, ça va s'écharper dans quelques minutes avec Christophe Cessieux, Lucho Leblanc, Thierry Bourguignon et Cyril Guimard, bien entendu. Et puis on va parler des Français. Quand est-ce qu'un Français va enfin gagner le Tour de France? Et est-ce qu'il faudrait pas pour cela réduire le kilométrage des contre-la-montre? C'est vrai qu'à une époque, on avait pourquoi pas taillé un tour à la mesure des meilleurs grimpeurs pour favoriser Richard Virenque. Alors ça n'avait pas suffi, mais pourquoi pas refaire un tour du même type l'an prochain. On en débattra avec Christophe Cessieux, avec vous au 32-16. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal des sports avec Martial Fernandez.
RMC Sport.
Bonjour Martial.
Salut Pierre.
Alors en tout cas pour 2012, le boss c'est Wiggins. Hein.
Sans contestation possible, Pierre. Certains ont douté de sa capacité à suivre son coéquipier Christopher Froome en montagne. Personne ne pourra remettre en cause sa domination sur le plat d'un contre-la-montre. Wiggins, le plus rapide cet après-midi sur les 53 km entre Bonneval et Chartres. Froome termine deuxième à 1 minute et 16 secondes. L'Espagnol Luis León Sanchez se classe troisième à 1:50. Les autres sont beaucoup plus loin. Wiggins sera donc le premier Britannique demain à remporter le Tour de France sur les Champs-Élysées. Il va enfin pouvoir souffler.
Le dernier 10 bornes, je savais j'étais devant et j'avais toujours la patte, donc j'ai beaucoup d'émotions maintenant. Tout le travail jusqu'à ce point, tous les dessous en 2010 quand j'étais 23e du tour, et toute l'année depuis Paris-Nice, toutes les questions, est-ce que t'es trop bonne, trop tôt, tout ça. Et voilà, on est là maintenant, presque, on a gagné le tour, sauf une étape demain.
Le soulagement de Bradley Wiggins. Pierre Roland, lui, termine 64e aujourd'hui. Il a fait avec les moyens du bord dans une spécialité, le contre-la-montre, qu'il ne maîtrise pas encore. 6 minutes 14 secondes concédées par rapport au maillot jaune. Pierre Roland, tout de même satisfait de sa journée.
Les chronos, c'est pas mon truc, hein. On me le dit assez souvent. Je vais tout faire pour m'améliorer, parce que voilà, c'est trop important. J'ai perdu énormément de temps sur le premier, mais bon, sur ceux qui étaient dans mon rang, je pense que je me maintiens. Il y a peu de gens qui donnaient cher de ma peau avec ces 110 km de contre-la-montre, donc si je termine 8e ou 7e du tour. Avec tous les déboires que j'ai eus, cette grosse chute à Metz, où j'aurais pu rester sur le carreau comme d'autres y sont restés, je suis content de moi, parce que ce matin, on disait que j'allais terminer 11e ou 12e, que j'allais me faire doubler par tout le monde. J'ai tenu mon rang. Si c'est confirmé, comme vous dites, 8e ou 7e, je suis fier de moi.
Pierre Roland, micro de Pierre-Yves Leroux. Et oui, c'est confirmé. Pierre Roland termine à la 8e place du classement général, un classement sans doute définitif. Wiggins, premier devant Froome à 3 minutes 21. Nibali est troisième à 6 minutes et 19 secondes. Cadel Evans, lui, le tenant du titre, vainqueur de l'édition 2011, qui s'est seulement classé 52e aujourd'hui, perd même une place au général. Il terminera 7e à plus d'un quart d'heure du vainqueur Wiggins. Pierre Roland, 8e. Et Thibaut Pinot, le deuxième français, qui préserve sa 10e place. Aujourd'hui, ça ne bougera plus non plus pour les maillots distinctifs. Le maillot à poids du classement de la montagne pour le français Thomas Voeckler. Le dernier français vainqueur était Anthony Chartaud en 2010. Le maillot vert du classement à points pour le Slovaque Peter Sagan, vainqueur de 3 étapes en 2012, et le maillot blanc du meilleur jeune pour l'américain TJ Van Garderen devant Thibaut Pinot. Demain, c'est la quille pour les 153 rescapés, 120 km, un départ à Rambouillet direction Paris et les Champs-Élysées, Pierre.
Alors, la Formule 1, maintenant Martial, séance humide, hein, il a plu pour ses essais qualificatifs au Grand Prix d'Allemagne. Le plus rapide, c'est Fernando Alonso.
Le plus habile sur ce circuit d'Hockenheim pour sa 22e pole position dans sa carrière. L'Espagnol, leader du championnat du monde, partira en première ligne aux côtés de Sébastien Vettel en deuxième ligne. On trouvera les Allemands plutôt brillants chez eux, Michael Schumacher et Nico Hülkenberg. Une météo qui aujourd'hui n'a pas réussi à Romain Grosjean. Le 14e temps seulement, la 19e place sur la grille finalement pour le Français à cause d'une pénalité suite à un changement de boîte de vitesse. Grosjean pourtant encore optimiste, même s'il sait qu'il va falloir trouver des explications à sa contre-performance du jour.
Si on comprend pourquoi ma voiture ne fonctionne pas et celle de Kimi fonctionne, je ne suis pas inquiet, puisque les possibilités de dépassement au Hockenheim sont assez élevées. La simulation nous donne un chiffre de dépassement plutôt positif par rapport à ce qu'on peut avoir à Silverstone. Donc si on comprend pourquoi ça n'a pas fonctionné sur la mienne, pourquoi ça a fonctionné sur celle de Kimi, sachant qu'on a les mêmes voitures, on peut être confiant pour demain.
Romain Grosjean, membre de la Dream Team RMC Sport, au micro d'Antoine Arlot. Le Français le mieux classé sur la grille demain au départ, ce sera Jean-Éric Vergne, 15e. Charles Pic, lui, s'élancera en 20e position. Maria de Villota va un peu mieux. La pilote d'essai de l'écurie Marussia a quitté l'hôpital hier soir en Angleterre. Elle a pu retourner chez elle en Espagne. Il y a 2 semaines et demie, l'Espagnole avait perdu un œil dans un grave accident lors d'une journée de test sur le circuit de Silverstone. Alou Diarra sera bien sanctionné. José Anigo, le directeur sportif de l'OM, rencontrera demain le milieu de terrain marseillais. Diarra a enfin retrouvé les terrains d'entraînement ce matin, seul, sans ses coéquipiers qui étaient au repos. L'ancien capitaine de l'équipe de France avait manqué sans autorisation la reprise des internationaux prévus en début de semaine à Marseille.
Alors Martial, bien sûr, pendant 16 jours exactement, c'est l'actualité olympique qui va dominer tous ces footeux dont tu nous rabâches les oreilles.
Et justement, la Dream Team est déjà à
Londres. En revanche, les basketteurs, eux, préparent leur tournoi olympique à Strasbourg. Grosse affiche ce soir, France-Brésil. Attention à ces Brésiliens.
On va le suivre évidemment sur RMC. France-Brésil, coup d'envoi dans quelques minutes à 19h30. Nicolas Batum est bien présent. Gauthier Kunzmann. Batum, après un long voyage à partir des États-Unis, il est passé par Portland, Amsterdam, Paris et donc ce soir finalement Strasbourg. Mais Gauthier, l'ailier de l'équipe de France, ne jouera pas ce soir.
Non, il ne jouera pas encore ce soir. Une nouvelle fois, il n'a plus joué depuis le 18 avril avec Portland. Il a joué la semaine dernière face à l'Espagne 5 minutes, mais ce n'était pas beaucoup. Il est arrivé cet après-midi à Strasbourg. Il est en train de s'échauffer avec ses coéquipiers, un petit peu à l'écart, mais il devra encore attendre avant de jouer. Il devra attendre la validation de son contrat et que le processus d'assurance soit réglé avec les Blazers de Portland. En revanche, Ali Traoré, lui, sera bien là. Il est remis de sa blessure au genou. Il a repris l'entraînement collectif jeudi avec ses coéquipiers à Strasbourg. Après 3 semaines de rééducation à Cap-Breton, il jouera donc ce soir son premier match avec les Bleus. Il devrait jouer environ 10 minutes. C'est ce qu'a annoncé hier Vincent Collet en conférence de presse. Voilà l'équipe de France qui affronte le Brésil ce soir. Coup d'envoi à 19h30.
Tout à l'heure, Gauthier. Vichy a reçu des stars planétaires cette semaine. L'équipe américaine de natation logée dans un hôtel 5 étoiles, un séjour relax. En toute discrétion, ce matin, les nageurs américains ont fait le job. Ils ont ouvert leurs portes au public français. Michael Phelps, Ryan Lochte et Missy Franklin en vedette, en maillot de bain à l'entraînement. L'homme qui pèse déjà 14 médailles d'or olympiques et qui va sans doute augmenter son total du côté de Londres, Michael Phelps, était enchanté de son séjour en France.
On a pu rester nous-mêmes et se préparer en tant qu'équipe. Et ça, on a pu le faire ici sans être dérangé. On a pu sortir comme on le voulait, s'amuser. On a dîné en dehors de l'hôtel et on s'est baladé un peu dans la ville, vu quelques trucs aussi. Il me semble que c'était vraiment l'endroit idéal pour qu'on puisse aller et venir et faire ce qu'on avait à faire pour se préparer pour Londres. Je veux dire, même la taille de la ville, ni trop grande, ni trop petite. Vous savez, c'est confortable. C'est une petite ville confortable pour se préparer.
Voilà, tout va bien pour Michael Phelps qui répondait aux questions de Camille Gelpi, l'équipe américaine, Pierre, qui quitte Vichy lundi, direction Londres. Attention, ils arrivent.
Oh, ne t'inquiète pas, on est bien installé. Déjà, il fait beau à Londres, tu vois. Il a plu en Allemagne. On ne sait pas trop sur la route du Tour de France. Ici, il fait beau à Londres, voilà. Tant pis pour les mauvaises langues. Les Américains, mais ils ont qu'à bien se préparer. Parce que l'équipe de France, je peux te dire qu'elle est chaud bouillante ce soir dans Before London pendant 2 heures. On va vous prendre par la main et on va vous faire une visite guidée de Londres qui est déjà bien évidemment parée des couleurs olympiques. On vous emmènera au village, il y aura plein d'invités. On va vous raconter comment ça se passe ici à seulement 6 jours des Jeux Olympiques. Christophe Cessieux, lui, il est sur le Tour de France. Là, c'est plutôt ambiance fin de compétition, Christophe.
Oui, c'est plutôt ambiance anglaise ici, Pierrot.
On va les calmer.
On a l'impression d'être un peu à London. Ça parle anglais, tu verras.
C'est vrai que Wiggins, c'est un vrai londonien, lui.
Ah oui, oui, oui. D'un quartier populaire de Londres, Bradley Wiggins, qui ne parle qu'en anglais. Vous allez voir, on écoutera tout à l'heure l'interview qui a essayé de réaliser Rémi Perrault, mais sans succès. Il n'a pas réussi à le faire parler français. Et puis, on va évidemment revenir sur Wiggins. Fait-il un beau vainqueur du Tour de France? On en parle avec Lucho, avec Cyril, avec Thierry Bourguignon. Et puis, on se posera la question aussi de savoir s'il ne faudrait pas un peu réduire le kilométrage des chronos pour voir un Français triompher dans le Tour de France. En tous les cas, ils sont 2 dans le top 10. Pierre Roland 8e, Thibaut Pinot 10e. C'est déjà pas mal et ça sera peut-être mieux l'année prochaine. On en parle dans un instant dans l'Intégral Tour. A tout de suite.
RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Et oui, Intégral Tour en direct de Chartres ce soir au terme de l'avant-dernière étape de ce Tour de France. Tout est dit, tout est fait. Passer au suivant, peut-être l'année prochaine en 2013. 13. En tous les cas, c'est un Britannique qui sera en jaune demain sur les Champs-Élysées. Bradley Wiggins, qui a fait taire toutes les rumeurs, qui a fait taire toutes les mauvaises langues qui disaient qu'il n'était pas le meilleur coureur de ce Tour de France. Eh bien, il a prouvé aujourd'hui qu'il n'était peut-être pas le meilleur en montagne, mais en tous les cas, le meilleur dans le chrono. Il remporte l'étape avec 1 minute 16 d'avance sur Christopher Froome et 1 minute 50 sur Luis Leon Sanchez. Et du coup, au général, eh bien, Bradley Wiggins s'envole. Il sera demain sacré sur les champs avec 3 minutes 21 d'avance sur Christopher Froome et Nibali, l'Italien, qui montera sur la troisième marche du podium avec un retard de 6 minutes 19. Ils sont là autour de moi pour revenir sur cette victoire, nouvelle victoire de Bradley Wiggins. Bradley Wiggins en jaune avec évidemment Lucho Leblanc. Salut Luc.
Bonsoir à tous.
Cyril Guimard, dit le druide pour les intimes, est également là. Bonsoir Cyril.
J'ai appuyé, ça marche le micro.
Ah,
bonsoir.
Dernier jour du tour. Et Thierry Bourguignon, qui est également avec nous. Salut Thierry.
Bonsoir messieurs.
Bon, alors messieurs, voilà, la messe est dite. Et Bradley Wiggins a bien dit la messe cet après-midi avec cette victoire dans ce chrono. On a vu toute sa rage sur la ligne d'arrivée. Je sais pas si vous avez vu cette image, le bras tendu, le regard dur. On sentait toute la détermination. Thierry, il avait vraiment envie aujourd'hui de montrer qu'il était le taulier, qu'il méritait ce maillot jaune. Et il l'a fait de la plus belle des manières parce que là, ça ne souffre d'aucune contestation, sa victoire dans ce chrono.
Oui, il y a tellement de monde qui a mis sa puissance en défaut, on va dire. On a critiqué qu'il n'était pas forcément le plus fort, que c'était pas le vainqueur du tour qui était le plus fort sur ce tour. Certes, en montagne, il a montré ses limites, mais on savait que il était un peu limité, un tout petit peu limité, mais par rapport à qui ? Par rapport à son équipier Froome. Et là, dans le chrono, ben il a répondu à Froome. La veille, Froome l'avait mis, du moins l'avant-veille, Froome lui avait mis un petit coup derrière les oreilles. Et là, ben Wiggins a remis les choses en place et lui a montré que le patron, il n'y en avait qu'un, il était en jaune. Voilà. Et c'était Wiggins.
Le patron, c'est Wiggins. Alors, fait-il pour autant un beau vainqueur du Tour ? On se pose la question ce soir. Est-ce que c'est un vainqueur qui vous fait rêver ? Est-ce que ce Tour vous a fait rêver ? On va commencer avec toi, Lucho. Tu fais une petite moue dubitative. Tu n'as pas l'air convaincu. Forcément,
c'est un beau vainqueur. Il faut pas non plus exagérer. C'est bon, il a gagné les chronos. Il a fait un superbe Tour. Bon, malgré tout, c'est pas le plus beau vainqueur que l'on ait connu. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur les grands tours par le passé, Bernard Hinault, Jacques Anquetil.
Oui, mais sans revenir si loin. Là, c'était dans les années
80. Mais moi, j'ai la nostalgie de ces années-là.
Ouais. Mais depuis, t'as plus jamais vu un bon vainqueur du Tour.
Miguel Indurain.
Ouais.
Pour moi, c'est vraiment le dernier grand vainqueur du Tour.
Franchement, moi, je suis.
Oui, mais Miguel, il faisait la même chose. Mais il gérait les chronos.
Mais Miguel, il a gagné des étapes de montagne.
Oui, c'est clair.
Et quand il fallait mettre en route dans les grandes étapes de montagne, que ce soit dans les Pyrénées et les Alpes, quand lui mettait en route, il faisait sauter tout le monde.
Oui, mais bon, qu'est-ce qu'il a fait, Wiggins ? Il a fait sauter tout le monde. Le problème, c'était qu'il avait un super équipier et que cet équipier.
Heureusement
qu'il était avec lui.
Miguel. Mais bon, ça fait quand même un très beau vainqueur cette année. Mais ceci dit, quand même, voilà, il reste quelque chose en suspens, quoi. Je veux dire, c'est pas.
Il t'a pas convaincu
complètement. Non, il m'a pas convaincu parce qu'il y avait pas de grand grimpeur. Donc pour moi, il m'a pas convaincu. Ouais. C'était le plus fort là sur le Tour cette année, certes, mais bon, voilà. Ouais.
Tiens, Frédéric nous appelle au 32-16. Il voulait justement réagir à cette question. Wiggins fait-il un beau vainqueur du Tour ? Bonsoir, Fred.
Ouais, bonsoir Christophe, bonsoir Cyril, bonsoir Bourgui. Et puis une bise particulière à Lucho, puisque l'année dernière, on s'était un peu disputé entre son chouchou Andy et puis.
Bon, salut.
Oui, Lucho, tu te rappelles pas de moi, mais moi je me rappelle bien de toi. Et puis surtout, j'ai supporté dans ta carrière. Mais bon, voilà. Alors oui, pour Wiggins, alors ça marche un peu le cœur, parce que l'année dernière, j'étais jamais d'accord avec Lucho, et là, je suis un peu d'accord avec Lucho.
Ah, merci.
Il ne dit pas que des bêtises.
Il en dit souvent, des fois on a même l'impression qu'il n'a jamais été sur un vélo, quoi.
Non, mais j'aurais. Fais voir, t'es en Gironde, toi, là, fais voir.
C'est la Saint-Lucho. C'est la Saint-Lucho aujourd'hui, tiens.
Mais si tu viens en Gironde, Lucho, je t'invite au resto et ça sera un bon moment, j'en suis persuadé.
Ah oui, c'est sûr.
Ouais, bon, il n'y a pas de problème, il va arriver.
Dès que tu lui parles de resto, que tu lui payes.
Maintenant qu'il est habillé pour l'hiver, il n'y a pas de problème.
Et attention, ça risque de te coûter cher, en resto.
Qu'est-ce qu'il mange, l'animal? Alors Fred, pour en revenir à ce vainqueur du Tour.
Alors ouais, ben moi je suis un peu déçu quand même de ce tour. Vigo, bah c'est le champion des contre-la-montre, mais je pense pas qu'il nous a montré qu'il était le plus fort quand même sur ce tour. C'est vrai que ça nous rappelle un peu Miguel Indurain, en un peu moins fort, parce que comme l'a dit Lucho, c'est dur à dire, mais comme l'a dit Lucho, Miguel il gagnait certaines étapes en montagne, et lorsqu'il envoyait les jambes, bah les gars ils avaient du mal
à dire. Derrière. Hein. Comme Lucho, c'est dur à dire.
Oui, mais c'est ça, mais moi je le dis quand même. Donc voilà, je trouve que Vigo, champion des contre-la-montre. Et moi je pense que Froome, quand même, il aurait pu le gagner ce tour. Alors c'est un bon équipier, c'est bien, il respecte son contrat, c'est tout à son honneur. Mais du coup, je pense que Vigo, c'est pas le plus beau vainqueur du tour qu'on pouvait avoir. Il a bien tenu en montagne, il a bien roulé, c'est le meilleur en contre-la-montre. Mais c'est vrai que moi je reste sur ma faim, il nous a manqué des dynamiteurs en montagne. Alors les absents ont toujours tort, hein. Contador il est capable de se faire choper, et puis Andy, bah malheureusement il s'est blessé. Mais ça nous manque, quoi. Deux bons gars qui auraient pu vraiment tout faire exploser en montagne. Ouais, et puis peut-être que Froome aurait suivi. Hein.
Je suis pas sûr qu'ils aient été à la hauteur. Parce que Froome contre et Wiggins contre les autres. J'aurais aimé voir le match. De toute façon, les absents.
Je suis d'accord, moi,
les absents ont toujours tort. Hein.
Les absents ont toujours tort, hein, mais pas de problème. Mais je pense que Froome, du coup, il aurait peut-être suivi Sorandi ou Alberto, et peut-être qu'on aurait eu Froome vainqueur. Enfin,
oui,
on
va refaire le tour. Oui. Mais Fred, rappelle-toi, Fred, l'année dernière, on disait pareil des Vents. Aujourd'hui, la physionomie des tours fait que c'est pas un attaquant pur qui va gagner.
Oui,
c'est un gestionnaire,
vrai.
Un mec qui passe de partout et qui excelle dans les chronos. Ouais.
C'est ce que... même qu'il avait un petit capital affectif qu'on lui donnait, que peut-être à moins Vigo, je pense.
Oui, bah très british. Ouais. C'est les roast beef, on les aime pas trop les Français, hein. J'ai l'impression.
ne commence pas, nous partons en Angleterre, on va se faire mal voir après.
Ah, oui.
Tiens, on va demander son avis. Merci Fred, en tous les cas, pour cet avis. Hein.
Et à bientôt. À bientôt à Bordeaux. Hein.
Salut, ouais, quand tu veux à l'entrecôte, tu sais là.
Ah, très bien, aucun problème.
Allez, on va poser la question à notre druide, évidemment, qui ne s'est pas encore exprimé ce soir et qui va sans doute nous sortir quelques vérités qui sont toujours bonnes à dire.
Non, je me suis déjà exprimé.
Oui, souvent.
Je me suis déjà exprimé parce qu'en fait, Fred vient de dire à peu près ce que je pensais.
Mmh, d'accord.
Alors, je lui ai soufflé comme ça, vous savez, avec les deux mains, j'ai fait des impositions.
Ah, c'est pour ça que tu tendais les mêmes.
Voilà.
Alors,
donc, c'est vrai que je rejoins ce que disait Fred. On reste sur notre fin, sur ce Tour de France. Il a un petit goût d'inachevé, même si ce qu'a fait Wiggins aujourd'hui, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Il n'y en a qu'un aujourd'hui dans le peloton à qui on peut le comparer avec un style un petit peu différent, c'est Cancellara. Et d'ailleurs, il y aura peut-être un très beau match dans un peu plus d'une semaine là-bas à Londres. Mais il n'y a rien qui bouge, l'oreille ne bouge pas, le bassin est bien fixé, la puissance pas. On va pas à droite, on va pas à gauche. C'est parfait, le vrai poursuiteur. C'est des images comme celle de Cancellara qu'il faut montrer dans les écoles de cyclisme pour bien faire prendre conscience que sur un vélo, c'est pas en secouant la caisse comme un malade qu'on avance plus vite.
Pourquoi, Cyril, dans notre esprit de latin, les grimpeurs font de plus beaux vainqueurs du tour que les rouleurs contre la montre? C'est vrai qu'on a toujours l'impression de dire « Oh là là, en montagne, c'est génial !»
La réponse est simple. C'est que... autant l'effort du contre-la-montre est aussi violent, aussi dur, on souffre autant dans un contre-la-montre que dans la montagne. La montagne a un côté mythique. Et puis, dans la montagne, il y a ces envolées, c'est du corps à corps. Et puis il y a ces drames dans la montagne qu'on a pratiquement jamais dans un contre-la-montre. Dans un contre-la-montre, c'est un combat à distance, c'est pas un combat d'homme à homme. Rappelez-vous le match Poulidor-Anquetil dans le Puy-de-Dôme. Ça, dans un contre-la-montre, c'est difficile à recréer, à faire vivre. On ne peut pas le faire vivre de cette façon-là. Alors bien sûr, nous à l'antenne, on peut dire il a repris une seconde, il a perdu une seconde, il est revenu. Ah, il a failli rater un virage.
Effectivement, bon, quand vous avez des
images aussi fortes que Anquetil et Poulidor ou des envolées de Gaulle ou de Bahamontès ou de Bernard Hinault. Attendez, là, l'émotion, elle passe, elle donne le frisson. Dans un contre-la-montre, c'est un peu froid.
Ouais. Thierry, tu partages cette analyse. Toi aussi, tu préfères les grands grimpeurs que les grands chronomènes, comme dit Bradley Wiggins.
Bien sûr, il y a plus d'émotions dégagées sur un parcours avec de la montagne, avec des descentes, avec des virages. virage avec avec des attaques, parce que un chrono, ben oui, même s'il est bien posé, même si c'est un métronome, que il y a rien qui bouge et qu'il va vite, il n'y a pas cette émotion, il n'y a pas ce combat, même si on juxtapose les deux images, comme peut le faire la télévision et comme vous pouvez le faire, le retranscrire par la radio. Ça c'est pas l'émotion qu'on a du corps à corps, du mano mano, c'est franchement super sympa. Et puis bon, il y a le risque, il y a la descente, il y a tout ce qui peut se dégager. Ouais.
J'irai plus loin dans cette analyse. Le contre-la-montre, c'est l'épreuve de vérité. Mais on sait très bien que personne n'aime trop la vérité, surtout si elle vous concerne, parce que là, il peut pas y avoir la moindre suspicion sur le résultat, sur la différence de valeur.
On peut pas mentir.
Entre les différents. Et on se rend compte que tous les champions qui ont gagné le Tour de France grâce au contre-la-montre ont toujours eu du mal à imposer leur popularité. Que ce soit Jacques Anquetil, que ce soit Miguel Indurain, entre autres, qui ont été des hommes qui étaient des métronomes du contre-la-montre. On a maintenant Wiggins cette année. On a du mal à avoir ce transfert d'émotion sur ces épreuves-là. Et comme c'est une épreuve de vérité, elle gêne. On préfère le combat où tous les coups sont permis. Je ne le dis pas d'un côté négatif, mais où il peut y avoir des attaques, des contre-attaques, où on peut bluffer, où on peut prendre des risques dans une descente, y compris éventuellement pour obliger ses adversaires à prendre des risques et peut-être aller à la chute. Le public préfère cela au contre-la-montre, à quelque chose justement qui est une vérité trop brutale, une vérité trop crue sur la valeur des individus. Wiggins va gagner. Toute sa vie, on dira, il a gagné parce qu'il était le meilleur contre la montre. C'était pas le meilleur combattant, c'était le meilleur contre la montre. Et finalement, la sympathie, elle va aller plus sur Froome, dont on a le sentiment qu'il a été obligé de se réfréner dans toutes les ascensions pour ne pas pouvoir jouer sa carte. Et c'est peut-être plus Froome que l'on va aimer, surtout si demain il regagne le Tour de France, on dira, ah oui, mais ça devrait faire deux Tours de France qu'il regagnait. Et je crois que les organisateurs, et je sais qu'ils vont débriefer après ce tour, je pense qu'il était quelque part mal équilibré.
Alors tiens, une petite précision, je suis allé voir sur mes archives parce que des auditeurs sur rmcsport.fr me disaient Miguel Indurain n'a jamais remporté la moindre étape de montagne sur le Tour de France. Il n'a remporté que des contre-la-montre. Donc ça,
oui, non, mais ça,
les Wiggins, hein. Hein. Tiens, non, on va prendre. Jamais. Je viens de faire.
Oui,
le...
oui non, mais c'est ce que ça appuie la thèse qu'on disait. Aujourd'hui, on a eu l'ère Indurain, on a eu l'ère Armstrong, et puis sans parler d'ère Wiggins, parce qu'il a 31 ans, mais on a quand même Cal Evans qui n'est pas un grimpeur, mais qui a vraiment des capacités similaires à Wiggins.
Ouais.
Mais c'est à croire qu'il est il est malade, il a quelque chose
dans la tête surtout. Oui, tiens, Patrick nous appelle
au 32-16. Il a le nerf de la tête qui a sauté.
Oui, ça fait vraiment mal, ça.
Patrick est au 32-16 pour revenir sur notre débat, à savoir si Wiggins fait un beau vainqueur du tour. Bonsoir Patrick.
Bonsoir messieurs, d'abord je voudrais vous attribuer le maillot jaune de la radio à vous tous, à toute l'équipe, parce que grâce à vous, on a oublié la monotonie de ce Tour de France, qui est vrai.
Merci
Patrick.
Des grimpeurs, même s'il manquait plein de choses, vous nous avez apporté les ingrédients pour nous faire vibrer, et bravo RMC, c'est la meilleure des radios. Oui.
Merci Patrick, ça fait plaisir.
Déjà, on
fait un beau vainqueur du Tour nous aussi alors, hein, selon toi.
Vous êtes les vainqueurs du Tour.
Alors Patrick, pour parler de Bradley Wiggins, pour toi, il fait un beau vainqueur.
Il a mérité, c'est un beau vainqueur malgré tout, parce que bon, qui a pu faire mieux que lui? Personne. C'est vrai que le contre-la-montre a été abusif dans ce Tour de France, c'est par cela qu'il a gagné, mais il a mérité sa course. C'est un garçon qui court bien, qui est régulier, qui ne fait pas de faute d'écart, de quoi que ce soit. Il était appliqué dans son œuvre et bon, bah, il a gagné. C'est vrai que Froome aurait pu être plutôt lui le vainqueur, parce que lorsqu'il il l'attend dans l'étape d'hier, je crois, il aurait pu plutôt partir. Mais bon, ça, les oreillettes, moi je suis contre, j'aime pas les oreillettes, hein, donc les oreillettes sur le tour, j'espère qu'un jour ça cessera et que le coureur sera libre de toute action et sera, comment dire, sera naturel dans la course, quoi, c'est ça, parce que là, ils sont programmés, les coureurs, ce qui est dommage. Mais il a mérité sa victoire, et devant aux Champs-Élysées, on lui fera un beau triomphe. C'est un garçon sympathique, hein, qui a fait ce qu'il avait à faire dans ses capacités, c'est-à-dire de non-grimpeur mais de rouleur. C'est un grand spécialiste du contre-la-montre. Il a gagné le Tour de France par le contre-la-montre, par ses plus de 100 km de contre-la-montre, ce qui est vrai.
Et, ouais, même, et même si Froome ne l'avait pas attendu la dernière étape de montagne,
Il
ne gagnait pas, du moins Froome ne pouvait pas gagner.
Oui, mais on a ce regret. Oui, on a quand même ce regret, Thierry. Ouais. C'est vrai qu'on aurait voulu voir ce que ça pouvait donner. On aurait aimé avoir du suspense. On aurait aimé que les deux hommes soient à armes égales.
Pas moi et pas Valverde non plus.
Oui, évidemment, c'est vrai que tu avais donné.
Non, mais il faut quand même ajouter qu'il y a eu deux fois où on arrivait au sommet. Les deux fois, il s'est arrêté. Or, dans la tout suivre, quand il est parti, il y a eu vite 20 secondes.
Hein. Ouais. Ça aurait pu monter très vite.
C'est là-bas qu'il aurait pu perdre beaucoup plus de temps là-bas.
Merci en tous les cas à Patrick. On va poursuivre nos débats dans quelques instants. Oulala, sur Indurain, ça réagit énormément sur rmcsport.fr. Il y a Laurent qui dit, mais si en 90, Indurain gagne la grande étape des Alpes, celle où Lehmann ne prend pas le maillot. Oui, mais il ne gagne pas le tour cette année-là, nous précise effectivement Laurent. Autrement, les 5 années où il a gagné le tour en suivant, il n'a pas remporté la moindre étape. Carole,
des auditeurs pointus. Hein.
Carole nous dit c'est parce que il laissait la victoire au second couteau. Il était grand seigneur et se contentait de distancer ses concurrents au classement général. Il était grand seigneur, Miguel Lucho.
Ah bah ça dépend.
T'en as laissé gagner beaucoup, toi?
Ah non, moi j'ai jamais.
Il t'a laissé gagner au Takam.
Lucho, dis-nous-le.
Voilà, ça veut dire que moi au Takam, c'est Miguel qui m'a laissé gagner au Takam. Non, parce que j'ai déjà.
Et il était grand seigneur.
Oui, ben il faut regarder les images de l'époque et vous comprendrez de suite.
On l'a vexé. Allez, dans un instant, on va s'intéresser à un autre débat. Pour espérer voir un Français remporter le tour, faut-il réduire le kilométrage des chronos? Ça, ce sera dans un instant. Auparavant, nous allons faire un petit tour à Strasbourg. Retrouvez Gauthier Koenigsmann pour un match de basket, l'équipe de France en préparation qui affronte le Brésil. Bonsoir Gauthier.
Bonsoir messieurs, ça vient de démarrer depuis un peu plus de 2 minutes 30 ici à Strasbourg entre la France et le Brésil, et c'est les Brésiliens qui mènent 6-2 ici à Strasbourg. C'est un premier vrai gros test pour l'équipe de France à 8 jours de leur premier match à Londres. Le Brésil, c'est un des outsiders tout simplement de l'épreuve olympique. Il faudra compter sur eux pour le podium. Vincent Collet les place au même rang que l'Espagne avec un secteur intérieur estampillé NBA très solide. Voilà, 6-2 pour le Brésil après 2 minutes 30 de jeu en première période.
Merci Gauthier, à tout à l'heure. Tiens, on va jouer tout de suite dans l'Intégral Tour.
Les opticiens Vision Plus vous offrent vos lunettes de soleil Tour de France sur RMC.
Voilà, et comme tous les soirs, nous vous offrons 5 paires de lunettes de soleil Tour de France. Pour gagner, il faut répondre à la question suivante. Quel Français terminera le tour le mieux placé au classement général? Si vous pensez que la bonne réponse est Thibaut Pinot, vous envoyez A par SMS au 732-16. Et si vous pensez que la bonne réponse est Pierre Roland, vous envoyez B par SMS au 732-16. Bonne chance. On en parle justement de nos deux Français, Pierre Roland et Thibaut Pinot. Faut-il réduire le chronométrage des chronos justement pour qu'ils espèrent qu'ils remportent le Tour de France? A tout de suite dans l'Intégral Tour.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
De retour à Chartres ici au terme de cette 19e étape du Tour de France. C'est l'avant-dernière, demain c'est la quille, demain tout le monde est sur les Champs-Élysées pour le défilé du 14 juillet, du 22 juillet. Ils seront tous là avec en tête de gondole évidemment Bradley Wiggins qui remportera son premier Tour de France. C'est le premier britannique à remporter le Tour de France. À quand un Français vainqueur du Tour? C'est la question qu'on se pose tous les ans à la même époque, Cyril, et on n'a toujours pas de réponse, mais on a quand même quelques petits prémices, parce que cette année, eh bien, nos Français ont bien marché. Deux Français dans le top 10, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, Cyril, hein. Toi qui as consulté les archives.
Non, je n'ai pas consulté deux. Les archives.
Roland et Vauclair.
Oui. Non, mais alors c'est vrai, finir dans le top 10, c'est bien, on en parle sur le moment, et la preuve, c'est qu'on finit même alors que on a commenté le Tour l'an dernier, à oublier qu'il y en avait déjà deux qui étaient sur le podium. Comme quoi, il y a le podium qui compte, et les maillots distinctifs qui seront remis, même le classement par équipe passe aussi inaperçu. Mais sur ce que l'on a vu, sur ce que l'on sait, sur les coureurs qui sont sur le Tour de France, ceux qui n'y sont pas et ceux qui risquent d'y, enfin qui devraient y rentrer dans les deux prochaines années, c'est vrai que on a beaucoup de possibilités de voir les Français reprendre la main, peut-être même reprendre le pouvoir. Alors ne soyons pas trop optimistes quand même, parce qu'il faut derrière du travail, etc. Mais je pense que En ce qui concerne les deux Français qui sont à l'actualité, aujourd'hui, à la veille de l'arrivée sur les champs, Pierre Roland et Thibaut Pinot, c'est vrai que pour gagner le Tour de France, il faudrait diminuer les contre-la-montre et augmenter les étapes de montagne. Mais je pense qu'il faudrait revoir la réglementation du Tour pour qu'elle soit beaucoup plus équilibrée. Et entre autres, on parle par exemple du contre-la-montre. Pourquoi ne pas y avoir une fourchette de distance, ou plus exactement de temps contre-la-montre ? Et pourquoi je dis de temps ? Parce que si on prend cette année, bon, vous avez eu 2 heures plus le prologue, 2h10 de contre-la-montre.
100 km de contre-la-montre.
Oui, c'est ce qui fait à peu près 2h10 de compétition. Pourquoi ne pas imaginer un règlement qui dit... sur un grand tour, pas seulement le Tour de France, le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, il doit y avoir entre 1h30 et 2h de contre-la-montre. Ce qui fait que vous pouvez mettre une épreuve contre-la-montre sur le plat, mais vous pouvez en mettre une aussi dans un col. Mais en aucun cas, il faudrait que ça dépasse 2h, car c'est sur la durée que c'est important. Les écarts se font sur la durée. Alors les kilomètres, c'est en fonction de la difficulté, bien sûr, de l'étape. Et autre chose, c'est que lorsque vous avez des coureurs qui dominent dans le contre-la-montre, avec des étapes, avec des équipes de 9, une fois que vous avez creusé les écarts, vous êtes capable de gérer l'ensemble, y compris dans la haute montagne, sauf dans les arrivées au sommet. Dans les arrivées au sommet, vous savez très bien qu'il n'y aura jamais 1 minute 30 entre le grimpeur qui a perdu du temps contre la montre. On ne rééquilibre pas. Ouais. Donc il faudrait aussi avoir dans les tours un quota d'ascension, mais de vraie ascension, pas mettre de col en début d'étape comme ça a été le cas dans l'étape d'Annonay qui ne sert à rien. Des vraies étapes de montagne où il y aura cet équilibre entre le rouleur et le grimpeur. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, nos deux petits Français, là, capables de s'améliorer contre la montre parce qu'ils ont des lacunes, pourront jouer la gagne du Tour.
Alors, aujourd'hui, il faut savoir, Thierry, que Thibaut Pinot a pris quand même 5 minutes 31, par Wiggins, et Roland 6 minutes 14.
Mais ils ont conservé leur place.
Et ils ont conservé leur place. Mais là, on parle de remporter le Tour, ou peut-être rentrer dans le top 3. Est-ce qu'on peut arriver à gommer autant d'écarts, Thierry, dans les années à venir? Il faut travailler. Soufflerie, on en parlait tout à l'heure avec Cyril pendant le direct, la position de Thibaut ou même celle de Pierre Roland, c'est pas vraiment des positions adéquates pour rentrer dans le vent, hein, Thierry.
Non, on aurait dit Bourguignon, dis donc.
C'est clair. Oui, mais bon, si.
On aurait dit Bourguignon avec sa bosse dans le dos.
Laisse-le faire. Hein, avec ou sans bosse, Rominger, il gagnait des courses.
Oui, mais donc, on n'était pas sur la même planète.
Il pénétrait très bien dans l'air.
Oui, mais bon, c'était un problème d'oxygène. Hein.
Simplement pour vous éclairer, l'an dernier, il y a quand même 3 Français qui finissent dans les 10. Hein, vous avez oublié Perrault.
C'est vrai.
Oui, 9e. Oui. Roland, 10e. 4e, Vauclair. Donc, 3 Français, il n'y a pas si longtemps qu'on les avait vus. Bon, là, il y en a 2, certes, et il y a eu beaucoup plus de victoires d'étape, c'est très bien. Là, maintenant, je pense que Thibaut Pinot peut encore progresser, vu son âge. Il ne peut que voir l'avenir dans le bon sens. Mm-hmm. Je ne sais pas s'il arrivera à franchir ce pas dans les chronos, mais je suis tout à fait d'accord avec Cyril pour dire qu'il faut équilibrer, parce que 100 km de chrono, dès le départ, j'avais dit que c'était un peu beaucoup.
Et seulement 2 vraies étapes de montagne. Quoi.
Oui, voilà. En plus, oui, il y a l'équilibre montagne-chrono qui était complètement à l'inverse de ce qu'on avait l'habitude de voir. Mmh. Et c'est vrai que les Alpes, il y a eu une étape. Dans les Pyrénées, il y a eu une étape. Et puis c'est tout. Donc, alors que d'habitude, il y a 2 étapes par
massif. Dans les Pyrénées, il y en a eu 2 quand même. L'étape de Péragude.
Oui, mais bon.
Avant, ça ressemblait à une étape quand même, les gars. Tiens, il y a une proposition de Max qui a peut-être trouvé la solution pour faire gagner les Français.
Tant mieux.
Il dit s'il faut faire gagner les Français plutôt que de raccourcir les contre-la-montre, pourquoi ne pas interdire le tour aux étrangers? Voilà une bonne
oui,
solution.
Non, mais faut pas faire à l'italienne.
C'est pas idiot, ça. Je note.
Il ne faut pas non plus réagir comme les Italiens à essayer de faire leur giro autour d'une victoire italienne.
Non, mais c'est là, Thierry.
Sur cette proposition, il fait
de l'humour, notre ami.
Sur la proposition, j'avais très bien compris. Mais je dis bien l'Italie. Merci. L'Italie, on sait très bien qu'ils avaient marqué le giro de façon à ce que ce soit un Italien plutôt qu'un étranger qui soit avantagé. Voilà, c'est
dire qu'ils aimaient bien les Italiens à condition, ils aimaient bien les étrangers à condition qu'ils soient italiens.
Pas. Voilà. Pas. Guillaume est au 32-16. Guillaume qui veut faire une proposition lui aussi. Bonsoir Guillaume.
Oui, bonsoir, bonsoir l'équipe. Je pense, hein, c'est que mon avis, pourquoi ne pas déplacer ces contre-la-montre? On peut garder, admettons, la distance si s'il faut de la distance, mais pourquoi pas mettre ces contre-la-montre après les étapes de montagne? Parce que des grimpeurs qui arrivent au pied de la montagne avec 2 minutes de retard après le contre-la-montre, faut quand même y aller.
Bah, habituellement, il y a toujours un contre-la-montre avant la montagne et un contre-la-montre au sortir du deuxième massif, comme ça a été le cas.
Non, mais il faudrait pas qu'il y ait de prologue déjà.
Ben, ça sera le cas l'année prochaine.
On commence déjà, voilà.
L'année prochaine, il y aura un contre-la-montre par équipe. Attends,
voilà. Non, 20 km à Nice, mais.
Ouais, 20 km, ça va pas faire des gros écarts, mais
il y a déjà de la montagne.
Il faut pas de prologue au départ, et puis à mon avis, quand on arrive dans la montagne, essayer de faire un contre-la-montre en bosse, hein, en montagne, et puis le dernier, la veille des Champs-Élysées.
Oui, un contre-la-montre sur les Champs.
Mais au moins garder.
C'est un bon souvenir pour Cyril.
Voilà, mais au moins garder le petit espoir de savoir qui peut éventuellement gagner le tour et garder le suspense jusqu'au bout.
Ah, c'est moyen chrono pour la course,
mieux. Hein. Justement, sur cette idée d'un chrono le dernier jour sur les Champs-Élysées, évidemment, ça reste un souvenir cuisant avec la défaite de Laurent Fignon pour 8 secondes, mais au moins ça nous avait tenu en haleine jusqu'au dernier jour, alors que demain ça sert à rien à l'étape. C'est juste un défilé. Hein,
demain c'est un défilé, c'est vrai que ça avait tenu en haleine, mais pour le suspense ça avait été formidable, sauf pour Laurent et pour moi, et puis pour toute l'équipe.
Oui, c'est sûr.
Mais surtout, compte tenu des circonstances, mais pour revenir au contre-la-montre, on a déjà passé de la montagne avant un contre-la-montre. Mais c'est vrai que on va revenir au prologue. Le prologue, c'est quoi? On part pas. Pour moi, une course, c'est tout le monde est sur la ligne de départ ensemble. Que vous mettiez un contre-la-montre le deuxième jour, à la limite, ça m'est égal. Mais le départ, c'est sur la même ligne, tout le monde en même temps. Alors que là, on fait un prologue qui détermine déjà une hiérarchie, et en fait le premier jour où on part sur la même ligne, vous avez déjà des coureurs qui ont un
avantage
handicap.
On avantage déjà des coureurs qui sont spécialistes du chrono.
Mais c'est pour ça que ça a été fait. Hein. Quand M. Jean Leliot les a mis en place, parce que c'est le premier qui a fait des prologues, il disait j'en ai marre, et c'était dans le cadre de Paris-Nice ou de l'Étoile des Espoirs, ou de la Route de France, et il disait oui mais moi je veux les stars tout de suite en tête parce que j'ai besoin de vendre mon épreuve.
D'accord.
Donc il fallait pas que ce soit un second couteau qui gagne la première étape. Ensuite ça s'est généralisé et tout le monde a trouvé ça formidable. En plus
moi, je suis pas pour
les organisateurs, pour les organisateurs c'était aussi plus facile à vendre à une ville un prologue qu'un départ d'étape en ligne. Voilà comment on est arrivé à ce système qui pour moi n'est pas logique, n'est pas sportif. Le départ c'est tout le monde sur la même ligne le premier jour, mais on balance pas tout le monde avec un handicap.
Il y a quelques années déjà, on l'avait enlevé le prologue. Alors pourquoi
ils sont revenus de temps en temps, ils le remettent.
Mais c'est un peu dommage parce que ça enlève tout le suspense de la première étape.
Oui, avant il y avait des sprinters qui étaient en jaune. On se rappelle de Cipollini en jaune. On se rappelle.
Mais attendez, je vais plus loin que ça. Vous savez que Darragat n'aurait jamais eu la popularité qu'il a eue s'il y avait eu des prologues, puisque il avait l'habitude de gagner la première étape et il prenait le maillot jaune.
Très bien. On continuera nos débats demain.
C'est déjà fini
parce que, ouais, non, mais on s'est pas vraiment intéressé quand même à la façon de progresser de nos deux Français pour espérer remporter le tour ou terminer sur le podium. On y reviendra peut-être demain.
Oui, on y reviendra.
Mais
vous n'avez pas d'idée pour les faire gagner.
C'est simple, pour les faire avancer contre la montre, plus.
Les fouetter.
Non. Il faut diminuer la résistance à l'avancement, qui est l'air. Ouais. Donc, faut passer en soufflerie.
D'accord.
Avant de penser à augmenter
le couple moteur. En soufflerie,
Beaucoup. Allez, Thibaut et Pierrot, en soufflerie, et on verra ça l'année prochaine.
Peut-être pas que la soufflerie.
Non, il y a peut-être autre chose à voir.
L'ergonomie aussi.
Il est 19h51, c'est l'heure de parier, c'est l'heure de faire le récapitulatif de nos paris, et de parier évidemment également pour le défilé de demain, le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Benji.
PMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker.
Monsieur Benji, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Bon. Bonsoir, Benji.
Alors, qui avait donné Bradley Wiggins?
Merci, Benji.
Eh bien, on était deux. Pourquoi merci, Lucho?
Ben, parce que tu viens pas demain.
Ah
oh, en tout il cas, va pleurer.
Thierry, C'est parce qu'il veut son CD, surtout, il veut sa chanson. Oui. Thierry Bourguignon et moi-même avions donné Wiggins. Ah, alors, c'était vraiment pour.
On n'est quand même que les deux seuls.
Alors, ça a permis à Thierry Bourguignon d'assurer son maillot vert. Quoi qu'il arrive, il sera en vert. Qu'il arrive, Lucho est maillot à poids. Quoi qu'il arrive, Christophe, sauf si quelqu'un ose attaquer le leader en tentant un Philippe Gilbert ou un Vinokourov, par exemple. Mais Christophe devrait être en jaune. Et puis, le maillot blanc sur les épaules de Georges Quirino. Mais ça, c'était déjà joué d'avance.
Oui, évidemment.
Même Froome, il ne peut pas remettre en question demain.
Non,
parce que 3 minutes et quelque chose, ça va être dur.
Ça va être compliqué. Alors, demain, dernière étape entre Rambouillet et les Champs-Élysées. Quels sont les grands favoris de cette étape, monsieur Benji? Donnez-nous des idées.
Eh bien,
nous n'en aurions pas.
Oui, ça m'étonnerait quand même, parce que 2009, 2010, 2011, monsieur Marc Cavendish, donc forcément, il est largement favori. 1,50, maintenant, ça vaut le coup. Ceux qui pensent que Cavendish va passer à côté, ça vaut le coup de jouer les autres, parce que Greipel est à 4, Goss à 9,50 et Peter Sagan à 11, Tyler Farrar lui étant à 40. Donc est-ce que Cavendish la laisse ou pas cette étape?
Alors attends, dis-moi si je peux revenir sur le maillot jaune en jouant.
Moi je vais tenter juste pour le fun, pour essayer, parce que j'ai envie de titiller Christophe, on sait jamais. Je vais mettre Vinokourov à 55, comme ça sais que j'ai fait mon calcul avec si Vinokourov gagne, je prends le maillot jaune, mais c'est si juste pour le fun.
Et si je joue Vinokourov, je perds pas le maillot vert, mais je peux revenir sur éventuellement sur le maillot jaune.
Oui, sauf que si, vu que je le joue aussi, ça sera moi.
Pourquoi t'es devant moi, toi?
Moi, je vais annihiler toutes vos attaques. Je vais annihiler toutes vos attaques en pariant aussi sur Vinokourov. Comme ça, on attaque. Et bon, alors, je vous marque à la culotte.
Non, mais j'ai pas dit.
Je fais comme vos clairs dans la montagne, moi, derrière Kessiakoff.
Avec Cavendish.
Cavendish pour Bourgui.
Oui. Cyril. De toute façon, je vois pas comment.
Écoutez, moi j'ai. Farrar, avec toutes les gamelles qu'il a prises.
Lucho, t'arrêtes de balancer les mauvais trucs.
Moi je vais jouer quand même pour un coureur capable de sortir dans le dernier kilomètre et de l'emporter.
Vino,
il sort, mais il est diesel quand même un peu. Un petit quelque chose, un type qui est capable de le faire, qui n'est plus capable depuis quelques temps.
Mais tu y arrives, tu vas le dire.
Mais qui pourrait d'un seul coup le dernier jour retrouver toute son adrénaline.
Bon alors, tu le crashes là.
Non, c'est pas avant l'œil. Pas Cadel Evans, Philippe Gilbert.
Ah, il va bien faire.
Alors attention, parce que vous aviez même pas deviné. Voilà, je suis déçu.
Non, mais
je crois que
vous voulez
parler de Willy Terling.
Cyril, t'as été le premier à dire que 24 heures après une chute.
Dépêche-toi.
Après une chute,
on n'a pas le temps.
On ne récupère pas.
Allez, bon, alors moi je vais dire Greipel. Voilà, tiens, je vous la boucle à tous là. Greipel.
Ouais, mais j'allais le dire.
Tu le veux le dire. T'as des Vinokourov, tu restes dans la roue.
Finalement, j'ai peut-être joué.
Non mais moi je vais jouer Cavendish, c'était une blague Vinokourov, évidemment qu'il va pas gagner demain. Voilà, merci messieurs.
Et si Cyril a raison avec Philippe Gilbert, il prend le maillot jaune, ça serait énorme quand même.
Ouais.
On verra.
Messieurs, Dédé nous attend, il lui reste 30 secondes, donc si vous voulez le faire taire, hein, ça va être comme ça.
Bon, alors, la route est propre.
Ouais, alors on parie demain, évidemment, on y reviendra demain.
À demain.
Salut. À demain. PMU.fr,
Paris sportifs, Paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Il est où ce Dédé? Dédé, il est avec nous ce soir. Il est avec nous parce que il n'est pas parti trop loin avec son camion, avec son gros Léon. Ça va, Dédé?
Ça va très très bien.
Bon, défilé demain, champagne, Champs-Élysées, la fiesta, c'est bien ça.
Hein. Tout est propre. Ça va être un grand moment de fête demain soir avec quand même quelques petits travaux de préparation pour mes équipes, puisqu'il y aura un minimum de choses à faire sur la soixantaine de kilomètres en dehors de Paris, puisque dans Paris, on ne fait plus rien. Dans Paris, c'est Paris et Paris, c'est.
À Paris, le gros Léon, il n'a même pas le droit d'y aller.
Si, il défilera sur les Champs-Élysées, fera un peu de bruit, posera le balai, mais on n'intervient pas dans les rues de Paris, puisque déjà tout est déjà bordé. Et voilà. Donc c'est avant Paris qu'on va intervenir, éventuellement dans les deux petites côtes de la journée, qui sont quand même deux broutilles, deux quatrièmes catégories, qu'il faudra s'infuser, mais c'est quand même vraiment extrêmement simple à faire. Je les recherche et je les trouve.
C'est pas grave, on ira demain. Merci Dédé. Et voilà, il fait beau demain sur les Champs-Élysées. Il fait beau à Paris, mais c'est incroyable. On m'avait dit qu'il pleuvait toujours à Paris. Mais ce n'est pas vrai. Regardez, il fait beau. On m'avait dit également qu'il pleuvait toujours à Londres, Pierrot.
Mais jamais,
c'est une bêtise.
Lorsque les Jeux Olympiques débarquent quelque part, il fait beau. C'est comme ça. Les Jeux à Londres, je peux te dire que c'est magnifique déjà, alors que c'est que dans 6 jours. Mais on vient d'arriver, nous, avec la Dream Team, là. Et Londres est déjà à l'heure olympique. On va vous y emmener pendant 2 heures dans ce Before London avec Hugo Brie et Brahim Asloum. Tiens, tu sais quoi? On a dépêché notre James Bond à nous. Alors, il est beaucoup plus petit, il parle beaucoup moins fort, il est beaucoup moins beau, c'est Rodolphe Massé. Mais figure-toi qu'il est entré dans le stade olympique et qu'il a vu tout simplement la mise en place de la cérémonie d'ouverture. Donc, soyez avec nous, on vous emmène à Londres. Ça va être la fête pendant 2 heures.
Eh ben, super.
RMC jusqu'à 22h, Before London.